Frère Ferdinand Posvic, vous venez de Maredsous pour nous parler d'un saint, le cardinal Newman. Vous avez traduit ses écrits oratoriens. On sait que le cardinal Newman était un chercheur, un prédicateur, mais ses écrits nous révèlent le saint. En quoi ses écrits nous révèlent-ils la figure du saint?
Je pense que vous venez de dire, c'est exactement ce que le prévôt actuel et successeur de John Henry Newman dit dans la préface à l'édition française de ses écrits oratoriens. Donc, il fait observer effectivement qu'on connaît beaucoup plus Newman comme le grand théologien, comme le chercheur, comme le prédicateur, dont les sermons, même de son époque anglicane à Oxford, ont été republiés par lui-même et souvent encore réédités par après, tellement ses sermons sont vraiment dans le grand esprit de la liturgie chrétienne au sens large. Et donc, dans l'édition anglaise de ses écrits oratoriens, on voit la thèse du père Placide Murray qui les a publiés. Et sa thèse est vraiment pour montrer la continuité qu'il y a dans le sacerdoce de Newman.
Vous dites que ses sermons sont pleinement liturgiques au sens théologal du terme. Que voulez-vous dire ?
Eh bien, ça veut dire qu'ils sont liés vraiment à ce qu'est la liturgie par rapport à la dévotion. C'est-à-dire que la liturgie, c'est vraiment le lien sacramentel de tout chrétien avec le Christ à travers des actes et pas seulement à travers la parole. Et je pense que cette vision-là, Newman l'a, et il l'a tellement que effectivement, ça nous amène à sa vie spirituelle. Comment est-ce qu'il vivait comme chrétien ? Et il l'a vécu très rapidement quand il y a eu ce fameux mouvement d'Oxford, le mouvement tractarien.
Ce mouvement tractarien, il va faire des tracts. Pour qui, pourquoi, comment?
Pour l'Église d'Angleterre, qui à ce moment-là est assez traditionnelle, je dirais.
On est en 1830-35.
Oui, c'est ça, dans ces années-là. Et à ce moment-là, il conteste l'establishment et il essaye de revivifier cette Église qui ronronne. Et donc, il va jusqu'à poser des questions justement sur la validité, je dirais, de la position anglicane, etc., ce qui le met en difficulté avec l'establishment. Et du coup, qu'est-ce qu'il trouve comme solution? Il veut approfondir dans une vie de retraite avec les quelques compagnons et disciples qu'il a autour de lui à Oxford. Il se retire à Littlemore pour vivre une espèce de vie de type monastique avec ses compagnons et approfondir leur connaissance des pères de l'Église, de la liturgie, etc.
L'origine de ce mouvement, c'est la volonté de vivre ensemble ou la volonté de rechercher ensemble.
C'est la volonté de rechercher ensemble quelle est la vraie image de la vie d'Église. Et la vie d'Église, ça commence entre les personnes les plus proches, c'est-à-dire dans une communauté. C'est pas d'abord la grande structure que nous connaissons aujourd'hui, c'est d'abord la relation entre les personnes dans une communauté de gens qui ont donné leur foi à Jésus-Christ ressuscité.
Alors vous dites aussi que Newman était un homme de relation.
Absolument. Et donc ça fait partie pour moi des traits spécifiques qui lui ont fait choisir l'oratoire comme type de vie religieuse quand il est rentré avec ses compagnons une fois converti en 1845. Il est venu ici à Rome. Il avait ici examiné un peu tous les types de vie religieuse de l'époque, jésuites, dominicains. Et finalement, il a dit non, c'est pas ça qui nous convient avec notre expérience de scolaire d'Oxford. Aucune de ces types de vie religieuse ne conviendra à moi, à mes compagnons. Nous avons nos limites aussi. Et nous devons pouvoir porter nos valeurs et nos richesses dans un type de vie religieuse cohérent avec ce que nous avons vécu jusqu'à présent. Et c'est là qu'il a trouvé l'oratoire de saint Philippe Néri. Et Philippe Néri n'a jamais voulu créer un ordre religieux. Ça s'est créé autour de lui. À la fin de sa vie, il a vécu avec les gens qui s'étaient rassemblés autour de lui, mais il a toujours refusé les ordres religieux. Et pour Newman, c'était quelque chose d'important, c'est-à-dire il a découvert une société de vie commune chrétienne sans vœux. Donc il décrit longuement dans ses écrits oratoriens, par contraste, la vie monastique, la vie des jésuites, etc., comme un corps, je dirais, c'est Goliath en face de David. Une énorme armure lourde, alors qu'il dit, mais finalement, ce qui importe, une vraie vie communautaire fondée sur la foi en Jésus-Christ, est d'abord la relation à l'autre.
Frère Ferdinand Pozvic, la vie communautaire de Newman, elle veut s'appuyer, il me semble, sur la charité. Mais la charité vécue comment ?
Alors la charité vécue avant tout dans la relation personnelle, c'est-à-dire chaque personne d'une communauté de frères qui croient tous en Jésus-Christ sont avant tout des gens qui essayent de se connaître aussi mutuellement, parce qu'on ne peut reconnaître le Christ que dans le visage de l'autre. C'est le fond de ce qu'on appelle la charité, c'est-à-dire que le visage humain qui se trouve le plus proche de moi, c'est le visage du Christ toujours. Et je pense que c'est ça que Newman a découvert dans l'oratoire.
Vous avez découvert, il me semble, Frère Ferdinand, 5 traits caractéristiques du chemin de sainteté proposé par Newman.
Eh bien, pour moi, d'abord, il y a, vous venez de le souligner, la charitable affection mutuelle. Ça, c'est vraiment le fondement.
La charitable affection mutuelle. Qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, c'est très important pour Newman. C'est vraiment que tous les membres d'une communauté se reconnaissent et arrivent à devenir tous des amis les uns pour les autres. C'est pour ça qu'à la fin de sa vie d'oratorien, il y a une très belle phrase de Newman où il dit « J'ai jamais voulu un grand oratoire parce qu'il est impossible d'avoir beaucoup d'amis dans la vie ». Et donc, c'est très clair que pour lui, la vie de communauté, c'est de faire tout cet effort qui me permet, avec une série de gens, sur des bases alors qui doivent être assez solides, de créer une vraie relation d'amitié. Et la base solide, elle est évidemment très caractéristique chez Newman, parce qu'il l'apprend à sa tradition anglaise, c'est qu'il faut que tous les membres de la communauté soient des gentlemen.
Alors, expliquez-nous.
Bien, le gentleman, c'est celui qui a fait des études libérales, comme on disait à l'époque, qui a été à l'université, qui connaît le monde, qui a de l'entre-gens, qui sait nouer une relation. C'est pas un rustre, disons. Bien sûr, il va montrer toutes les limites qui peuvent être un peu orgueilleuses d'une position de ce genre-là, un peu snob. Mais la cinquième caractéristique pour moi, et qu'on peut mettre en tête, c'est que précisément ça ne peut se vivre que dans l'humilité. C'est-à-dire en étant pleinement conscient qu'à la fois on doit avoir une base, une humanité très riche, et qu'il faut essayer de développer cette humanité. Et là, je pense que c'est très christologique aussi, et Newman le voit de cette manière-là, c'est-à-dire que si Jésus est vraiment homme et Dieu, c'est à travers son humanité qu'il nous touche. Et que donc, s'il n'y a pas une vraie humanité à la base de la relation fraternelle dans une vie de communauté, il n'y a pas non plus de relation divine, il n'y a pas de... La grâce ne peut croître que sur une nature qui existe. Alors ça, c'est donc deux traits principaux. Et pour que ça puisse se faire, je dirais le laboratoire géographique, c'est la vie de communauté, avec toutes ses petitesses. Et là, Newman décrit ça admirablement. Il y a toutes sortes de petits traits. Il faut vraiment connaître l'autre, ses habitudes, ses petits défauts, tout ce qui fait une vie commune. Les connaître parce que l'humanité de l'autre est celle à travers laquelle je découvre le visage du Christ. Et donc, si je ne suis pas capable de supporter ou de porter ou de reconnaître l'autre dans son unité et toute sa personnalité qui est faite de petites choses, et donc il faut savoir les habitudes, il faut savoir délimiter l'autre et en même temps le respecter entièrement tel qu'il est. Et je pense que c'est ça que Newman veut dire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment concrètement tous les jours organiser sa vie en fonction des autres. Il dit quelque part, je dois me mettre dans la pensée des autres pour pouvoir vivre avec eux. Et je dois avoir cette merveilleuse chose de vivre avec tous des visages connus. Le visage connu est le signe de la fraternité. Et alors un quatrième trait, c'est sous l'angle du temps. Et là aussi, Newman apporte quelque chose d'extraordinaire pour moi, pour la qualité spirituelle de la vie. Donc il y a deux dimensions du temps auxquelles il tient énormément. Une qui semble assez évidente, c'est la persévérance. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est engagé dans ce type-là de combat, il faut essayer de le mener jusqu'au bout. Et la seconde, pour le mener jusqu'au bout, il faut faire parfaitement chaque chose que l'on fait tous les jours. On valorise totalement le moindre geste quotidien. Et donc ce n'est pas des grands discours, ce n'est pas des grandes actions, on ne demande pas d'être martyr, de partir en mission loin. Si Dieu nous appelle à faire des choses comme ça, c'est tant mieux. Mais ça se passe d'abord ici, là où je me trouve. Tout se passe là. Mais donc je pense que c'est cette petitesse, et c'est pour ça que ça m'amène au cinquième trait, l'humilité de quelque chose de très simple et de très quotidien, et de nouveau ces visages que je vois tous les jours, c'est par là que passe la sainteté, et pas par des grandes mortifications. Et je pense que là, on a l'esprit aussi de saint Philippe Néri, qui était connu comme un petit rigolo, c'est-à-dire qui dégonflait chaque fois qu'on voulait faire des grandes choses, et il montrait que c'était un peu stupide, que c'était orgueilleux, que ce que John Henry Newman a de plus que saint Philippe Néri, c'est qu'il est en même temps un grand penseur. Et je pense qu'il est un père de l'Église dans cette voie de la sainteté aussi, et là on ne l'a pas assez souligné jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il rappelle à tous les religieux et à tous les chrétiens, attention, le fondement de la vie religieuse, c'est la foi au Christ ressuscité, vécue avec des personnes qui se reconnaissent entre elles parfaitement au nom du Christ.